Voilà, bien bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis le père Philippe de Fort, je viens de Paris, je ne sais pas si le père Paul a eu l'occasion de le dire. Et voilà, comme je m'occupe de séminaristes, que je suis en études, en tout cas que je suis en train de finir mon doctorat, voilà, j'ai la possibilité de vivre tout ce tridium pascal avec vous. C'est une joie, c'est mon premier séjour à Vannes. Même si je suis déjà passé dans le Morbihan, c'est mon premier séjour à Vannes. Voilà, et c'est donc une grande joie de vivre avec vous ces jours saints. Alors, je voudrais simplement commencer de manière toute bête, mais parfois il est bon de redire des choses toutes simples, pour nous faire prendre conscience à tous, frères et sœurs, que nous sommes tout simplement, que nous allons vivre à partir de ce soir, tout simplement les moments les plus importants de notre année. C'est le sommet de notre année. Peut-être que vous avez vécu plein de belles choses pendant cette année, ou peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, douloureuses. Je vous annonce que le moment le plus important de votre année, et de la mienne aussi, c'est maintenant. Hein, nous avons... De temps en temps, il est bon de se rappeler une chose toute simple, c'est que ce qu'il y a de plus important dans la vie de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle son mystère pascal, sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc le sommet de l'année, c'est toujours la fête de Pâques. Et donc nous avons vécu ce temps de carême, les 40 jours du carême se sont terminés dimanche, comme vous l'avez entendu au début de la célébration des rameaux, nous sommes entrés dans la semaine sainte, et dans la semaine sainte, le plus important, qui est déjà la semaine la plus importante, le plus important de la semaine sainte, c'est maintenant. C'est à partir de ce soir. Hein, ce qu'on appelle ce triduum pascal. C'est 3 jours. C'est 3 jours pour passer de la mort à la vie. Qui commence réellement ce soir. Hein, puisque Jésus est ressuscité le 3e jour, vous pouvez faire le décompte. Si ça commence ce soir, ça va, ça colle jusqu'à dimanche matin. Ça fait 3 normalement. Ça fait le 3e jour. Voilà, donc c'est le plus important. J'avais un professeur au séminaire qui avait cette petite formule toute simple. Un évangile, le récit d'un évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus avec une introduction plus ou moins longue. Et c'est un fait assez étonnant, dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps. C'est que la passion, vous avez remarqué, la passion de Jésus, le récit de sa crucifixion, récit de la résurrection, évidemment, mais surtout de la passion et de la mort, prennent beaucoup de place dans l'évangile. Ils sont importants. Vous n'avez jamais demandé pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi ?
Eh oui ! Vous savez que les évangiles ont été écrits, non pas au fil de la plume, comme des reporters contemporains feraient, se mettraient derrière Jésus et marqueraient jour après jour ce qu'il est en train de faire. Les évangiles ont été écrits après la résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité qu'on s'est décidé à écrire les évangiles. Qu'on s'est décidé à mettre par écrit ce qu'on avait retenu de la vie de Jésus. Et donc remarquez ce fait assez étonnant. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour l'éternité. Voilà ce qu'ont compris, ce qu'ont expérimenté les disciples et les apôtres. Et pourtant, on va écrire un évangile dans lequel on va faire plusieurs chapitres pour raconter son arrestation, ses souffrances, son chemin de croix, sa passion, sa mort. Évidemment, sa résurrection. Et ne serait-ce que ça, ça vaut le coup de méditer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ? Je ne sais pas, vous avez quelqu'un de proche qui a vécu quelque chose de difficile. Souvent, une fois que l'événement est passé, on n'a pas tellement envie de revenir dessus. On est content de s'en être sorti. Et ce qui se passe avec Jésus, c'est complètement différent. Et les apôtres et les disciples, au lieu de dire « Il est ressuscité, regardez notre Seigneur, regardez le Seigneur Jésus, regardez notre chef, regardez comme il est glorieux, comme il est ressuscité. » Et on va mettre un peu de côté le fait qu'il a été arrêté, qu'il a été humilié, qu'il a été moqué, qu'il a été... Ça, on va le mettre de côté, non ? On prend le temps de raconter. Et de raconter en détail. C'est presque... Frères et sœurs, c'est presque la chose la plus précieuse que je voudrais que le Seigneur nous fasse comprendre. C'est de découvrir que la résurrection du Christ, la vie du chrétien, n'est pas l'effacement de sa passion, l'effacement de nos souffrances, mais la transfiguration. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, c'est pas Jésus a vécu un moment un peu difficile, bon, ok, très bien, mais il est ressuscité et tout va bien. C'est dans sa passion, dans sa mort, se trouve le mystère de sa personne, se trouve le mystère de Dieu. Dieu, je peux le comprendre, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, quand Jésus est arrêté, quand Jésus porte sa croix, quand Jésus est crucifié, et évidemment quand Jésus sort du tombeau libre et vainqueur. Alors ce qui est absolument génial dans la liturgie, dans le Triduum, c'est qu'on va être comme obligé de vivre cela. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi c'est spontanément quand j'ai un évangile à lire, je me précipite pas sur la passion. Bon, peut-être vous, hein, mais ça c'est... Personne va lire la passion de Jésus. Personne n'a envie de lire la passion de Jésus. Et bien le Triduum pascal, la grâce de la liturgie, c'est de nous mettre sous les yeux, de nous mettre dans notre cœur des aspects du mystère de la vie de Jésus sur lesquels on passe un peu vite. Et de comprendre l'unité profonde de tout cela. De comprendre l'unité profonde. Vous avez déjà vécu le Triduum pascal, j'en suis sûr, mais peut-être que vous n'avez pas fait attention à cette chose, que la liturgie nous indique les trois grands offices du Triduum pascal. C'est évidemment le Jeudi Saint, ce soir, l'office de la scène, la messe de la scène, l'office de la Passion, demain, je parle des grands offices liturgiques, et la vigile de Pâques. On est d'accord ? Trois grands offices du Triduum pascal. Et bien la liturgie est construite de telle sorte que entre ces trois offices, il y a un signe de croix d'ouverture ce soir et il y aura une bénédiction finale samedi soir. Et ces trois offices vont s'enchaîner presque comme une seule et même liturgie. Pour que nous comprenions bien que c'est un seul et même mystère, un seul et même Jésus-Christ, celui qui s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples, qui institue l'Eucharistie, qui vit sa passion, qui va au tombeau et qui ressuscite pour l'éternité. Une seule et même personne, un seul et même mystère. C'est vraiment la grâce que nous pouvons demander dans ce Triduum. Alors Triduum, je le disais, Triduum, donc c'est trois jours hein, qui commencent donc ce soir et qui se terminent au matin de Pâques, au matin dans la nuit du samedi au dimanche, puisqu'il est ressuscité le troisième jour, comme nous le disons dans le Credo. Triduum et Triduum pascal. Triduum pascal. Pourquoi Triduum pascal ? Évidemment, c'est une référence à la Pâque juive. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la Pâque ? La Pâque juive, c'est cet épisode bien connu de la sortie d'Égypte, cet épisode bien connu, hein, rappelez-vous, de l'ange exterminateur, un des moments qu'on n'aime pas trop non plus lire dans l'Ancien Testament, qui nous perturbe un peu, cet ange qui doit passer au milieu des maisons, qui va conduire à la mort des premiers-nés d'Égypte. Sauf sur les maisons des Hébreux qui auront mis du sang sur le linteau de leurs portes. Vous vous souvenez de ce passage dans l'Exode ? La Pâque, le passage de l'ange. Et le passage de l'ange qui est libération de l'esclavage. Et bien c'est pourquoi je vous disais que nous allions vivre le sommet de l'année. Parce que de la même manière, Jésus vit ce passage et il le vit pour nous. Alors je vais vous donner le début de ce que nous entendrons ce soir à l'Évangile. C'est au chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? L'heure est venue de passer de ce monde à son Père. Qu'est-ce que Jésus a besoin de passer de ce monde à son Père ? Pourquoi est-ce que Jésus vit cela ? On va juste se rappeler, faire un petit peu de mémoire de la personne de Jésus. Qui est Jésus ? Le Fils éternel de Dieu. On est bien d'accord, celui qui est en Dieu de toute éternité. Il y a le Père et le Fils. Et voilà que ce Fils de Dieu prend chair. C'est ce qu'on a célébré à Noël. Devient l'un de nous. Mais il est toujours le Fils de Dieu. Il est toujours en communion avec son Père. Il est toujours proche de son Père, Jésus. Il a jamais péché. C'est le péché qui éloigne de Dieu. On est d'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que ce passage ? Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Qui est-ce qu'il fait passer au Père ? Pas lui, mais nous. Le passage que Jésus opère, c'est pas le passage qu'il doit opérer lui. Il n'a jamais cessé d'être proche du Père. Il ne cesse jamais d'être proche de Dieu. Le passage en question, c'est le passage de l'humanité pécheresse qui doit aller vers le Père, qui doit rejoindre le Père, être débarrassé de son péché, retrouver la communion avec Dieu qu'elle avait perdue. Vous voyez, ça nous aide tout de suite à comprendre l'enjeu de ce tridium pascal. Il y a un passage que Jésus opère, si bien que nous allons garder les yeux fixés sur Jésus. Nous devons vivre ce tridium en regardant Jésus, pas en regardant notre nombril, mais en regardant Jésus, ce qu'il fait lui, car c'est lui l'acteur de la passion. Il faut regarder Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus ? Qu'est-ce que vit Jésus ? Qu'est-ce qu'accomplit Jésus ? Regardez Jésus. C'est le passage de Jésus de ce monde au Père, mais ce passage, il le réalise pour nous. C'est le passage de Jésus vers le Père, c'est-à-dire que c'est la mort et la résurrection de Jésus, mais la mort et la résurrection de Jésus, c'est pour nous. Comme on dit dans le credo, pour nous les hommes et pour notre salut. Vous voyez, donc on se trouve dans une situation assez inconfortable au moment du tridium pascal. Parce que nous allons voir Jésus s'abaisser, Jésus souffrir, Jésus mourir, et nous allons découvrir de plus en plus que tout ce qu'il vit, ça n'est pas pour lui. Ça n'est pas pour lui qu'il le vit. Il est saint, il est sans péché. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Il n'a pas besoin de naître, il n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas besoin de ressusciter, si on réfléchit. Il n'a pas besoin de ressusciter, Jésus, puisqu'il n'est pas condamné à mourir. La mort, il va découvrir ce que c'est, mais pour nous. Pour nous, seulement pour nous, pas pour lui. Donc vous voyez, nous sommes dans une situation très 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 particulière. Je pense que nous, on a souvent l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on se regarde d'abord nous-mêmes, et puis après, parfois, on pense à Dieu. Eh bien, Jésus fait l'inverse. Tout ce qu'il vit, c'est pour nous. C'est pour que nous soyons, pour que nous mettions Dieu au centre de notre vie. Pour que nous mettions Dieu au centre de notre vie. Donc, ce Triduum pascal dans lequel nous allons entrer ce soir, normalement, il doit nous déstabiliser. Normalement, il doit nous déstabiliser. Encore une fois, pour redire ce que je viens de dire, on est dans une situation assez étonnante et assez gênante presque. Parce que, normalement, ces sentiments vont nous atteindre de plus en plus si nous regardons Jésus. Nous n'avons pas envie qu'il souffre. Nous n'avons pas envie qu'il meure. Vous êtes d'accord ? Notre cœur n'est pas si dur que ça. Toute personne humaine, on n'a pas envie qu'elle souffre, on n'a pas envie qu'elle meure. Combien plus pour Jésus ? Et en même temps, si Jésus ne souffre pas et ne meurt pas, nous ne serons pas réconciliés avec Dieu. Dans un épisode que je vais reprendre un peu en détail tout de suite après, à savoir Gethsémani, ce moment où Jésus est dans le jardin, vous avez certainement à l'esprit qu'il dit aux disciples, en particulier aux trois apôtres qu'il a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean, voilà, mettez-vous à l'écart, veillez avec moi, veillez. Et que ces trois, Pierre, Jacques et Jean, sont tombés dans le sommeil. Pierre, Jacques et Jean sont tombés dans le sommeil. C'est un sommeil étonnant que ce sommeil de Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani. Alors il fait référence à beaucoup d'autres moments de sommeil dans la Bible. Pensez par exemple à celui d'Adam au moment de la création d'Ève. Pensez également à celui d'Abraham. En Genèse 15, au moment de la conclusion de l'Alliance. À chaque fois qu'il y a des sommeils comme ça, qu'il y a des torpeurs, que l'homme est pris dans une torpeur, à chaque fois qu'il y a cela, c'est parce que Dieu est en train d'agir et que ça échappe complètement à l'homme. C'est peut-être un peu ce qui va se passer pendant ce Triduum pour nous. Nous ne pouvons pas mettre la main sur le mystère de Jésus qui souffre la passion, qui meurt et qui ressuscite. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est le mystère de notre salut qui nous échappe, qui nous prend de toutes parts. Nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans des catégories ou que sais-je. Ça nous dépasse infiniment. Alors bien sûr, on va essayer d'en parler, on va essayer de rentrer dans ce mystère, mais c'est notre salut qui s'opère. Je viens de faire référence au sommeil de Pierre, Jacques et Jean. De même, là aussi vous avez ça à l'esprit, de même sur la croix, Jésus dira quoi ? Tout est accompli, tout est achevé, tout a eu lieu. Tout est réalisé, tout est fait. Nous, on est là, on regarde Jésus en train de mourir sur la croix, on a envie de dire, tout est fait là, ça y est, c'est fini. Ça y est, tout est accompli, mais j'ai rien fait, j'ai rien pu faire. Eh ben non, justement. notre salut. C'est le Christ qui nous le donne. Notre salut, c'est le Christ qui nous le donne. C'est une conversion essentielle à vivre, capitale, que celle de comprendre que c'est le Christ qui me sauve. C'est le Christ qui opère le salut. Ça n'est pas moi. Et ça aussi, c'est très déstabilisant. Très déstabilisant. Je ne peux pas faire quelque chose, non ? Je ne peux pas faire un petit quelque chose ? Il n'y a pas un petit geste que je peux faire, un petit truc ? Ben non. Ça viendra après, ça viendra après. Le temps de la collaboration, le temps de la mission, ça viendra. Mais pour l'instant, regarde, contemple, vois celui qui s'offre pour te réconcilier avec le Père. Et tout s'accomplit en lui, tout s'accomplit dans son offrande, tout s'accomplit dans l'acte qu'il pose de donner sa vie, de remettre sa vie entre les mains du Père. Tout s'accomplit là. Et tu es pris par une forme de sommeil, par une forme de torpeur. Et c'est très important parce que si on veut bien rentrer dans le Triduum, il ne faut pas se dire « je vais faire des tas de choses hein, ». Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir grand-chose à faire. Je veux dire de se laisser porter. C'est impressionnant hein, comme on a toujours tendance à s'activer, hein, à s'agiter hein, pour pouvoir contrôler les choses. On est toujours déstabilisé quand on dit « il n'y a plus rien à faire, là il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, c'est Dieu qui est en train d'agir, il n'y a rien à faire. » Donc Triduum, si je reprends ce que je disais, hein, donc vraiment notre sommet de l'année liturgique, donc notre sommet de l'année, hein, ces trois jours sont le sommet de l'année parce qu'il y a un passage, voilà. Il y a un passage. Le Christ fait passer l'humanité pécheresse dans le monde du Père, si j'ose dire, la réconcilie avec le Père. C'est le passage que Jésus opère et qu'il opère pour nous les hommes. Et c'est pourquoi dans ce Triduum pascal, et nous renouvelons les promesses de notre baptême. Alors d'abord, il y a ceux qui sont baptisés en la nuit de Pâques, et puis il y a ceux qui sont déjà baptisés et qui renouvellent les promesses de leur baptême. Autrement dit, qui renouvellent ce passage de la mort à la vie, ce passage de l'humanité blessé de l'humanité ennemie de Dieu à l'humanité réconciliée avec Dieu. Donc je vais vous donner un conseil tout simple, hein, mais je pense pas inintéressant. Préparez-vous pendant cette retraite à renouveler les promesses de votre baptême. Ça sera peut-être l'occasion tout simplement de vous, comme pour vous comme pour moi, de nous rappeler la grâce propre du baptême. La grâce propre même, qui est d'être unis à Jésus dans sa mort pour ressusciter avec lui. D'être unis à Jésus dans sa mort pour ressusciter avec lui. C'est étonnant parce qu'on retrouve un sacrement dans lequel il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est très beau d'être baptisé petit. Parce que le petit enfant, il est bien incapable de faire quoi que ce soit. Hein, on le balade à droite, à gauche, puis à un moment donné, on lui dit « Bon, ben voilà, maintenant tu vas renaître de nouveau. » Mais oui. De même que, je ne sais pas comment c'est passé pour vous, mais en tout cas pour moi, au moment de ma naissance, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Je suis né. Hein, c'est un passif. Je suis né. Vous êtes né. Vous êtes né à une vie nouvelle le jour de votre baptême. C'est un autre qui vous a fait naître. Vous n'êtes pas né par vous-même. Vous ne vous êtes pas donné le salut. Vous n'avez pas opéré vous-même votre propre perfection, votre propre sainteté. Vous l'avez reçu, vous êtes né, vous avez été baptisé. Vous savez qu'il y a, pour un baptême, pour célébrer un baptême, il ne faut pas forcément absolument un prêtre, comme on dit, ou un diacre. Hein, un laïc peut baptiser, peut-être vous l'avez déjà entendu ça. Et même, nous dit la théologie éventuellement, même un non-baptisé peut baptiser. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est se baptiser soi-même. Ça fait réfléchir, non? On ne peut pas se baptiser soi-même. On ne peut pas se baptiser soi-même. On reçoit d'un autre, on reçoit la vie d'un autre, on reçoit la vie de Dieu. Alors, venons-en aux deux petits points que je voudrais évoquer dans cette première intervention. Donc je vous ai dit que la passion, la mort et la résurrection de Jésus, mais surtout la passion et la mort, prenaient beaucoup de place dans les évangiles en nombre de chapitres. Il y a encore un fait assez marquant, c'est que les quatre évangiles relatent cette passion, cette mort, d'une manière assez semblable. Je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois cette idée toute simple qu'il y a les évangiles dits synoptiques, hein, un gros mot qui fait sérieux, qui montre qu'on a fait de la théologie, ça fait sérieux, hein, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est-à-dire les évangiles qui sont dans le même regard, qui se ressemblent. C'est à peu près le même plan à chaque fois, à peu près, Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Jean, ça vous a déjà sauté aux yeux, qui est un peu bizarre, qui est un peu différent des trois autres. Eh bien, si l'évangile de Jean est bizarre par rapport aux trois autres, eh bien, il n'empêche que au moment de la passion et de la mort de Jésus, les quatre évangiles se ressemblent beaucoup, beaucoup. Et donc, tous les exégètes, vous savez, ces gens qui s'occupent de travailler la Bible, qui passent des heures et des heures à travailler la Bible, disent, mais ça, c'est le signe que c'est ce dont on a parlé en premier. C'est le signe qu'on avait un récit, le récit de la mort, des souffrances de Jésus, de sa crucifixion, qui était là, une des premières choses qu'on a gardées dans les communautés chrétiennes au début. Et ça, c'était incontournable. Tout le monde gardait ça. Alors, il y a quatre éléments qu'on retrouve systématiquement, puis après, il y a des petites choses avant qui varient. Quatre éléments qu'on retrouve systématiquement dans les quatre évangiles, justement, quatre éléments dans les quatre évangiles, quatre éléments qui sont dans chaque évangile, dans chacun des quatre évangiles, l'arrestation, le procès juif, le procès romain et le moment sur le calvaire, la mort de Jésus. Donc il y a toujours, dans les quatre évangiles, à chaque fois, il y a un récit d'arrestation, un récit d'un procès chez les juifs devant les autorités juives. Alors, il peut y avoir des petites variantes. Un procès romain, un procès devant les autorités romaines, en gros devant Pilate, et la mort de Jésus, la crucifixion et la mort de Jésus au calvaire, au Golgotha. Ça, c'est commun aux quatre. Puis après, dans chaque évangile, il y a des petites introductions différentes, des petits préambules. Hein, par exemple, l'onction à Béthanie qu'on a pu lire le lundi saint. Ou le lavement des pieds chez Saint Jean, dont on va reparler. Ou la prière de Jésus à Gethsémani, donc qui n'est pas racontée en tant que telle dans l'évangile de Jean. Alors je voudrais noter deux points pour bien comprendre ce qui va se passer dans ce tridium pascal, dans cet acte de Jésus. Le premier point, c'est le point de la liberté de Jésus. Une phrase toute simple que j'aime particulièrement nous permet de nous en rappeler. C'est quand Jésus parle de sa... Quand Jésus se présente comme le bon pasteur. Je vais essayer de retrouver la référence précise. C'est au chapitre 10 de Jean. Au verset 18. 17 et 18. 10, 17, 18. Voici pourquoi le Père m'aime, dit Jésus, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ma vie, c'est une autre traduction, c'est comme ça que je le retiens moi d'habitude, ça c'est la traduction liturgique que je viens de vous dire. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. On retrouvera tout à fait ça dans l'évangile de ce soir, toujours chez saint Jean, au chapitre 13, la suite de ce que je viens de vous lire. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, là, se lève de table, dépose son vêtement, et puis, on aura plus loin, il reprend son vêtement. Ce sont les mêmes mots en grec. Jésus dépose sa vie et a le pouvoir de la reprendre. De même, dans le lavement des pieds, Jésus dépose ses vêtements, et peut-être vous savez que les vêtements, c'est la personne, dépose ses vêtements et a le pouvoir et les reprend après. Donc ce qui est en jeu ici, c'est bien de comprendre que Jésus est parfaitement libre dans tout ce mystère de la passion. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, c'est moi qui la dépose. Je dépose ma vie pour la reprendre ensuite. Alors ça, c'est absolument capital. C'est absolument capital, cet aspect de la liberté. Parce que tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons contempler, va nous donner l'impression du contraire. Vous êtes d'accord? Nous n'allons pas cesser de voir Jésus balader d'un endroit à un autre, menotté, j'ai envie de dire, si je faisais un anachronisme, frappé, jugé, mis sur la croix, mis au tombeau. Nous allons voir tout ça. Et il y a un risque, frères et sœurs, c'est de croire que dans tout ça, Jésus n'est pas libre. Or, il l'est, plus que n'importe qui d'entre nous. Dans tout cela, Jésus est en train de déposer sa vie. Il est en train de donner sa vie. C'est une liberté totale, pleine et entière. Peut-être que vous avez déjà un peu touché ça du doigt à chaque fois que vous entendez dans l'Évangile cette fameuse référence à l'heure, L'HEURE. Nombre de fois où Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », ou l'évangéliste dit « Son heure n'était pas encore arrivée ». Vraiment, comprenez ça du plus profond de vous-même. Jésus ne meurt pas sur la croix parce qu'il aurait un peu baissé la garde, il n'aurait pas fait trop gaffe à qui était derrière lui ou à côté de lui et que « Ah zut, je me suis fait attraper ». Mais pas du tout, du tout. Jésus donne sa vie quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. Nous aurons ça dans le récit du jardin, au moment de l'arrestation, encore chez saint Jean. Je reste beaucoup avec Jean parce que c'est l'évangile que nous lirons ce soir, demain soir aussi. Et également dimanche matin, dans l'arrestation de Jésus chez saint Jean, c'est au chapitre 18. Là, je vous lis à partir du verset 4. Donc, il y a Judas qui rentre dans le jardin avec un détachement de soldats. Jésus, verset 4, 18-4, Jean 18-4. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen ». Il leur dit « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Écoutez bien ça. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. C'est incroyable cette scène. Je reprends. Jésus est là dans son jardin, avec quelques disciples autour de lui, dont on va voir qu'ils ne sont pas trop courageux quand même. il y a des soldats qui arrivent, des soldats, vous savez, ceux qui ont la force, qui ont les armes, qui ont le pouvoir avec eux, qui sont du côté des puissants, si je puis dire, ils s'approchent de Jésus. « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent « Jésus le Nazaréen ». Et Jésus dit « C'est moi ». Et à ce moment-là, quand il dit « C'est moi », c'est-à-dire « Je suis », ce fameux nom, cette fameuse identification divine, « Je suis, c'est moi, je suis », « ego eimi » en grec, ils reculent tous et ils tombent en arrière. Comment ne pas comprendre, dans une scène comme ça, qui est libre ? Qui est roi dans tout ça ? Qui a le pouvoir ? Les soldats ? Ceux qui ont les armes ? Non. C'est Jésus. Et il va falloir qu'il s'y reprenne à deux fois. Donc il recule, il tombe à terre. Du coup, il leur demande de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Alors, ils se saisissent de Jésus et le ligotent. Vous voyez, donc, il est extrêmement important que pendant ce tridium pascal, nous ne soyons pas dupes, que nous comprenions bien où est le roi, où est le Seigneur dans ces événements. Qui décide de ce qui est en train de se passer ? Jésus dira exactement la même chose à Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Vous voyez l'enjeu spirituel, hein, pour chacun d'entre nous, dans ce monde-ci, enfin dans n'importe quel monde, mais dans le monde dans lequel nous sommes. Si nous pouvions traverser ce tridium, sortir de ce tridium pascal en comprenant où est le véritable pouvoir ? Où est la véritable liberté ? Qui est le maître du monde ? Qui est le roi ? Si nous pouvions comprendre cela et ne pas nous laisser impressionner par toutes sortes de puissances diverses et variées qui prétendent gouverner le monde et avoir le pouvoir, alors que le pouvoir appartient à Jésus qui donne sa propre vie librement. Vraiment, cet aspect de la liberté est très important pour ne pas se tromper sur la personne de Jésus, sur ce qui se passe dans cette passion, dans son arrestation, dans ses souffrances, dans sa crucifixion. Alors, vous pouvez prendre plein d'autres passages, hein, plein d'autres passages et toucher du doigt cela, hein, les moments où Jésus dépose sa vie, dépose son vêtement. On le reverra encore, et je le dirai peut-être ce soir à l'homélie, mais si le tridium pascal s'ouvre par le lavement des pieds et par l'institution de l'Eucharistie, c'est dans le même but. Faisons résonner ces paroles en nous. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Autrement dit, je donne ma vie, je me livre pour le salut des hommes. Et je vous donne un sacrement, l'Eucharistie, qui permettra de rendre actuel ce don que je fais de ma vie, à travers les siècles, en de multiples endroits de par le monde. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Hein ? C'est la preuve, la certitude, le signe évidemment que Jésus se donne librement, offre sa vie et qu'il se laisse saisir quand il l'entend, quand l'heure est venue, ou plus précisément, quand le Père lui indique que c'est l'heure. Ça vaut le coup, donc je vous ai parlé de Jean, mais l'autre évangile que je cite très souvent, c'est Matthieu, puisque c'est les deux évangiles. L'évangile de Matthieu, comme vous le savez, est l'évangile que nous lisons tout au long de l'année. Et l'évangile de Jean est particulièrement convoqué pendant le tridium pascal. Alors relisons le moment de Jésus à Gethsémani, chez saint Matthieu. C'est au chapitre 26. À partir du verset 36. Matthieu 26, 36. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Alors Jésus est libre. Jésus est libre. Et nous découvrons dans ce passage ce que ça veut dire qu'être libre. C'est un épisode de la vie de Jésus, cette prière à Gethsémani, qui a fait beaucoup réfléchir, peut-être qui vous fait beaucoup réfléchir, mais qui est capital pour comprendre qui est le Christ Jésus. Qui est le Christ Jésus ? Il y a eu des débats dans les premiers siècles de l'Église, notamment au 7e siècle, 6e, 7e siècle, pour interpréter ce passage. Et puis, il y a eu beaucoup de théories, d'interrogations, jusqu'à ce qu'un grand saint, qui s'appelle Saint Maxime le Confesseur, un très grand saint, trouve l'explication de ce dialogue entre Jésus et son Père. Parce qu'elle a quand même quelque chose d'assez surprenant. Voilà que Jésus, dont j'ai dit qu'il était toujours en communion avec son Père, qu'il était toujours uni à son Père, voilà qu'il semble, plus qu'il semble, voilà qu'il dit à un moment donné, j'en ai pas très envie. J'ai pas très envie de la passion. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas une autre solution. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-on imaginer que le Fils éternel de Dieu ne veuille pas ce que son Père veut, sachant que le Fils et le Père sont un seul Dieu? Je vous rappelle un peu de théologie de la Trinité, ça fait du bien de temps en temps. Le Fils de Dieu et son Père, c'est un seul Dieu. Comment est-ce que c'est possible qu'en Dieu, ils veuillent pas la même chose, le Fils et le Père? Non, ça ne peut pas être ça. Et saint Maxime, qui a médité sur l'incarnation du Fils de Dieu, nous dévoile que ce qui se passe ici, c'est que Jésus, parce qu'il est homme, a une volonté d'homme. Jésus a une volonté d'homme. Jésus est vraiment homme. Plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que nous sommes hommes de la nature humaine, nous avons une volonté aussi. Et voilà que Jésus, avec sa volonté d'homme, dit à Dieu, ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, je ne suis pas d'accord. En gros, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que homme, et que lui, comme chacun d'entre nous, il n'a pas envie de souffrir. Il n'a pas envie de souffrir. Quel est l'homme qui dirait « j'ai envie de souffrir » ? Ça ne peut pas être juste, il n'a pas envie de souffrir. Il n'a pas envie de mourir non plus. C'est cette peur naturelle de la mort. Mais ce qui se passe, c'est qu'il exprime dans son humanité, avec sa volonté d'homme, sa répugnance devant la passion, devant la crucifixion qui s'annonce, car il sait de quoi il est question. Et il ajoute, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et voilà. Voilà qu'il remet l'humanité déjà dans la communion avec Dieu le Père. Je ne sais pas si vous avez vu il y a fort longtemps le film de Mel Gibson sur la passion. Ça n'est pas parfait, loin de là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais il y a une chose qui est assez réussie, à mon avis, c'est qu'il filme évidemment ce qui se passe dans le jardin de Gethsémani. Et il fait, dans la réalisation, il y a un serpent qui passe à ce moment-là. Tiens, en faisant cela, il ne fait que s'inscrire dans une grande tradition chrétienne qui a fait un rapprochement entre le jardin d'Éden, le jardin du paradis, dans lequel étaient Adam et Ève, et le jardin de Gethsémani. Et il y a même trois jardins. Plus, dans un troisième, ça sera le jardin de la résurrection. Mais restons sur les deux premiers. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Face à la parole de Dieu qui était « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre », Adam et Ève, l'humanité, a dit « Non pas ce que tu veux, mais ce que je veux. » Qu'est-ce qui se passe dans le jardin de Gethsémani? L'inverse. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est à partir de là que l'humanité se trouve déjà remise dans l'amitié avec Dieu. Et il y a quelque chose de très beau dans tout cela, parce que nous comprenons que Jésus veut, accepte la passion et la mort, pas seulement parce qu'il est Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Je suis sûr que ça vous donne des tas de perspectives pour vos propres vies. Voilà, pour toutes ces croix qui vous arrivent, qui nous arrivent, devant lesquelles il est possible, évidemment, de se rebeller, de se révolter. Mais il est aussi possible de suivre Jésus et de découvrir que la communion avec Dieu est plus importante et que Dieu peut faire traverser des souffrances pour le salut, pour notre salut et pour le salut de tous les hommes. Voilà, Jésus veut, comme homme et comme Dieu, la passion. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est exactement cette liberté dont je parlais. À ce moment-là, hein, on l'entend chez saint Matthieu, c'est au verset 46, « Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Autrement dit, la passion se joue d'abord et essentiellement en Jésus. La question est de savoir si Jésus, vrai Dieu et vrai homme, va accepter de donner sa vie. La question n'est pas de savoir si les soldats vont l'attraper, pas l'attraper, Pilate, Hérode, tout ça. Voyez. La question est de savoir si Jésus va donner sa vie. Et dans ce jardin de Gethsémani, nous voyons ce grand oui qu'il dit. Ce grand oui qu'il dit. Oui au salut. Oui au salut pour mes frères humains. Mesurons ce que la passion a coûté à Jésus et combien il le fait pour nous, combien il le fait par amour de nous. Peut-être, certainement même, vous comme moi, il y a des moments où nous demandons qui nous aime, si nous sommes aimés, si nous sommes vraiment aimés, si quelqu'un nous aimera jusqu'au bout. Et bien voilà, nous l'avons. Nous en avons le signe. La manifestation éclatante Oui, il y en a un qui nous aime et qui nous aime jusqu'au bout, qui n'a pas renoncé à livrer sa propre vie pour nous. Par amour de Dieu, par amour du salut que Dieu veut nous donner. Alors le deuxième point que je vous proposais, et je terminerai par là, pour commencer cette méditation du Triduum, le deuxième point, c'est l'humilité de Jésus. C'est encore une fois, je reste quand même sur le début du Triduum pascal, c'est de nouveau au moment dans Saint Jean chapitre 13, au moment du dernier repas. Je vais reprendre le début du chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec toi. » Simon-Pierre lui dit « Alors c'est seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver les pieds, de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Alors je m'arrête ici. C'est donc le premier récit de l'Évangile que nous allons lire ce soir au début du Triduum et qui nous donne la clé de ce qui se passe. Jésus est à la fois libre et sa liberté s'exprime dans un acte d'humilité, dans un acte d'abaissement. On dira dans le langage théologique, dans un acte de kénose, voilà, d'abaissement, de kénose. Il se vide de lui-même. C'est exactement ce que on constate dans ce récit du lavement des pieds. Il faut probablement que vous imaginiez que l'esclave, car c'était un esclave, qui lavait les pieds des gens dans les repas, parce que quand on allait quelque part dans ce monde juif de l'époque, on se faisait laver les pieds, parce qu'on avait marché sur des terrains avec beaucoup de poussière, en sandales peut-être, pieds nus pour d'autres. Donc c'est un geste très, très, très agréable de se faire laver les pieds. Eh bien, l'esclave qui faisait cela, on le remarquait sans doute même pas. Tout à fait imaginer la scène, on continuait sa conversation et quelqu'un nous lavait les pieds, voilà. Évidemment, aujourd'hui, ça nous ferait un peu bizarre, donc on remarquerait qu'il est en train de se passer quelque chose de bizarre, mais à l'époque, personne ne remarquait rien. Je crois que ça nous aide à comprendre ce que Jésus est en train de faire. Ce qu'il fait, c'est un geste qui va passer, un acte qui passe inaperçu, pour des millions de personnes. Jésus donne sa vie dans l'anonymat. Il n'y avait pas 50 caméras. Dans le monde dans lequel nous sommes, tout acte doit toujours être bien, surtout bien médiatisé, il faut bien communiquer, il faut bien... L'acte de Jésus est un acte dans l'humilité, dans la discrétion la plus totale, la plus complète. Et tout au long de la Passion, nous allons retrouver pour dire les choses plus simplement, personne ne comprend. Personne ne comprend ce qui se passe. Dans cette passion de Jésus, personne ne comprend. Personne ne voit la liberté de Jésus. Personne ne voit qu'il est en train de donner sa vie. Tout le monde le prend pour un, voilà, pour un, je sais pas, pour plein de choses. En tout cas, il est moqué, outragé. Ceux-là même pour qui il donne sa vie ne comprennent pas de quoi il s'agit. Entre les disciples qui s'enfuient, ceux qui se moquent de lui, le peuple qui regarde là, tout est interloqué, etc., etc. Et c'est un acte d'abaissement. Jésus fait ça dans la discrétion, dans l'humilité, personne ne comprend. Après la résurrection, on va comprendre. Mais au moment où ça se passe, personne ne comprend. Il faut quand même que nous laissions un petit peu saisir par ça, vous voyez. Nous sommes en train de parler de celui qui est Dieu lui-même, l'Éternel, sans commencement ni fin, le Créateur du ciel et de la terre, la parole par qui tout a été créé. C'est celui-ci qui se fait le serviteur, qui lave les pieds, qui va accepter d'être outragé, d'être frappé, de porter sa croix, d'avoir une couronne d'épines, d'être mis sur la croix. Vous voyez, ça nous dit quelque chose du mystère de Dieu. Moi, j'ai découvert il y a quelque temps une réalité toute simple, mais ça m'a fait pas mal un petit peu réfléchir. Vous savez, la vraie humilité. La vraie humilité, c'est pas de se mettre plus petit, se mettre en dessous de quelqu'un qui est plus grand que nous. Ça, c'est être à sa place, en fait. Un enfant qui obéit à ses parents, il n'est pas humble, il fait ce qui est normal. Je parle d'un petit enfant, en tout cas. L'humilité, c'est se faire plus petit de quelqu'un par rapport à quelqu'un qui est plus petit que nous. C'est exactement ce que fait Dieu dans le mystère de la Passion. Jésus se fait plus petit que nous, alors qu'il est infiniment plus grand que nous. Il vient nous chercher, je ne sais pas comment dire ça, mais comme par en dessous. Il vient descendre dans ce qu'il y a de plus petit, de plus... Et peut-être, parce que je vois que l'heure avance, certainement même, c'est la condition pour que nous entrions bien dans le mystère pascal, dans le tridium, c'est que nous soyons aussi petits. Ça, je le dis, mais alors clairement, nettement, sans hésitation. Le mystère de la mort de Jésus n'est pas accessible aux orgueilleux. C'est pas possible. C'est pour les petits. Alors il faut qu'on demande la grâce d'être petit pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour être touché par cet acte d'amour de Jésus. Et c'est exactement ce que Pierre, dont nous venons de voir un petit épisode bien connu de la vie, doit comprendre. Vous connaissez ça par cœur, ce Pierre qui promet qu'il va donner sa vie pour le Christ. Eh bien, il doit passer, il doit se faire petit, il doit découvrir le mystère de la petitesse de Jésus pour enfin devenir l'apôtre qu'il doit être, la pierre de l'Église qu'il doit être. Donc je le disais, il n'y a pas de possibilité de comprendre la croix pour l'orgueilleux. Qu'est-ce que c'est que l'orgueilleux ? L'orgueilleux, c'est celui qui aime ses qualités parce qu'elles sont à lui. Ça aussi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je trouve que c'est assez parlant, je ne sais pas si ça va vous parler, mais une différence entre le vaniteux et l'orgueilleux. Évidemment, je ne parle pas pour vous, ça ne vous concerne pas du tout, je parle pour moi. Mais le vaniteux, c'est celui qui aime le regard des autres et qui se nourrit du regard des autres. Il a besoin d'être aimé, etc. Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime. L'orgueilleux, c'est même pas ça. C'est pire d'une certaine manière. Enfin, je ne sais pas si on peut comparer, mais... L'orgueilleux, il a plein de qualités, il a plein de talents, et elles sont à lui. Elles sont à lui. C'est son bien à lui. Ce sont ses qualités à lui. On pourra longuement méditer sur le fait que, vous savez, l'ange Satan, c'est Lucifer, comme vous le savez, l'ange de lumière, qui a plein de qualités, hein, plein de qualités. C'est le plus lumineux de tous les anges. Son problème, c'est de ne pas être prêt à redonner ses qualités, à les recevoir toujours, sans cesse, de nouveau. Et de même, voyez, nous les orgueilleux, nous préférons maîtriser nos qualités, les contrôler, tout ça, plutôt que les livrer, plutôt que les remettre. Et voilà exactement comment nous pouvons comprendre que Jésus est l'anti-orgueilleux, évidemment, l'humble par excellence. Comme dira saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué le droit d'être traité à l'égal de Dieu. C'est Philippiens 2. Lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué le droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti lui-même. Tout ce qu'il avait de bien, il s'en est dépouillé pour en faire profiter les autres, pour que les autres soient sauvés. Voilà. Et Pierre, saint Pierre, doit faire cette expérience, doit apprendre de Jésus que le vrai chemin de la grandeur est le chemin de l'humilité, est le chemin de l'abaissement, est le chemin du service. Alors je m'arrête là puisque l'heure est passée, mais juste pour conclure, comment rentrer dans ce tridium? Je vais reprendre des choses que j'ai pu dire, mais premier point, consentir à la révélation. Comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose que je dois accueillir d'abord, sans chercher à tout comprendre, à mettre la main sur. C'est le mystère de mon salut, le mystère du salut de l'humanité qui s'accomplit. Ça, c'est plus grand. C'est plus grand que tout ce que je peux imaginer, c'est plus grand que tout ce que je peux comprendre, c'est plus grand que tout ce que je peux construire. Deuxième petit conseil, eh bien ne pas avoir peur de nous demander qui nous sommes dans ce mystère. Pascal, Pierre, Pilate, les Juifs, la foule, sans doute nous serons les uns et les autres successivement. N'ayons pas peur de ça. C'est aussi un moment, le Triduum Pascal, durant lequel notre péché est dévoilé, nos résistances sont dévoilées. C'est pas grave, au contraire. Dieu va les guérir, Dieu va nous en pardonner. Et enfin, je vous invite à concentrer toute votre attention, toute votre énergie pendant ces 3 jours, principalement sur ces trois offices avec lesquels j'ai commencé, l'office de ce soir, de la scène, la messe de la scène du Seigneur, l'office de la Passion et l'office de la Vigile. La liturgie est incontestablement la source et le sommet de la vie chrétienne. Plus encore que les paroles du prédicateur, plus encore que nos temps de prière. Voilà, essayons de vivre au mieux ces 3 offices qui sont les plus riches, les plus importants, les plus nourrissants. Amen.
Voilà, on va exposer le Seigneur maintenant, ici, sur l'autel. Ceux qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon, le Père Philippe va confesser dans le confessionnal classique. Si tu n'as pas d'aube, tu peux en prendre une ici.